Bonjour à tous. Je souhaiterais ce matin partager un texte. Je laisserai le soin à Odélia de l'afficher dans le livre des Nombres, chapitre 32. Un épisode de la vie d'Israël, un épisode particulier, mais qui est très révélateur de l'attitude des croyants lorsqu'il s'agit de rentrer dans le pays promis. Je ne sais pas si tu arrives, Odélia. Chapitre 32, versets 1 à 7, on va dire. Voilà, il s'agit d'un épisode particulier où l'on trouve les fils de Ruben et les fils de Gad qui avaient de grands troupeaux, des troupeaux considérables. Ils virent que le pays de Yazer et de Galaad était propice à l'élevage. Alors, les Gadites et les Rubénites vinrent parler à Moïse, au sacrificateur Éléazar et au prince de la communauté en ces termes. Ataroth, Dibon, Yaézer, Nimra, Eshbon, Éléalé, Séban, Nebo et Béon, ce pays que l'Éternel a frappé devant la communauté d'Israël est un pays favorable pour le cheptel. Or, tes serviteurs ont du cheptel. Ils dirent, si nous pouvons obtenir cette faveur de ta part, que la possession de ce pays soit accordée à tes serviteurs et ne nous fait point passer le Jourdain. Moïse répondit aux Gadites et aux Rubénites, vos frères iront-ils à la guerre et vous, resterez-vous ici? Pourquoi voulez-vous décourager les Israélites de passer dans le pays que l'Éternel leur donne? Voilà un épisode un peu particulier, on le parcourra, ce chapitre 32, pour voir un peu quelle est l'attitude de ces deux tribus qui se présentent avec Moïse, Josué, devant la terre promise. Ce texte-là pourrait être ou nous paraître anodin, mais je crois qu'il contient des vérités essentielles sur des principes spirituels auxquels aussi bien l'Église qu'Israël sont confrontés et ont à prendre position. Une démarche qui conditionne la manière dont nous entrerons ou non dans les promesses de Dieu, dans notre terre promise. Si vous lisez attentivement le chapitre 31 du livre des Nombres, vous voyez qu'il s'agit là de la victoire sur les Madianites et du partage du butin de manière très précise, à la fois sur les biens, les animaux et aussi sur les personnes. C'est très concret, des personnes qui étaient emmenées par Israël. Et là, au chapitre 32, on se trouve devant cet épisode un peu particulier où les fils de Ruben et les fils de Gad font une demande de ne pas entrer dans la terre promise. Lorsqu'on lit ce texte en français, il y a des choses qui peuvent nous échapper, notamment le premier verset, où il est simplement dit « les Rubénites et les Gadites avaient un cheptel nombreux et très important ». En fait, la formulation en hébreu de ce premier verset, c'est « de très grands troupeaux possédaient les fils de Ruben et les fils de Gad ». Ce qui est assez particulier comme formulation, en français on l'a remis dans l'ordre. Les tribus de Gad et de Ruben avaient de grands troupeaux. Mais en fait, la formulation, et j'écoutais il y a quelques jours un commentateur rabbin qui faisait l'explication de ce texte-là, il disait, on peut se demander à la lecture de ce premier verset, qui possédait qui? Est-ce que c'était Ruben et Gad qui possédaient des troupeaux, ou est-ce que c'était les troupeaux très nombreux qui possédaient Gad et Ruben? En fait, dans ce verset, il y a une manière de souligner que le texte est centré sur la possession. On sort du chapitre 31 où il y a eu le partage du butin et quelques centaines de kilos d'or, d'argent, de troupeaux, de cheptels, etc., remportés dans le combat face aux Madianites. Et puis le chapitre 32 reparle de questions de possession et de ces deux tribus qui viennent et qui demandent à ne pas rentrer dans la terre promise parce que ce qu'ils voient avant dans le terrain de Yaézer ou de Galaad, eh bien, leur semble beaucoup plus intéressant. Il y a un philosophe qui s'appelle Michel Onfray, on aime ou on n'aime pas, parce qu'il est très médiatisé, je suis un peu partagé, mais qui vient de sortir un livre qui est un livre d'analyse philosophique sur l'histoire, et notamment sur l'histoire de notre monde judéo-chrétien. Et son livre s'appelle « Décadence ». Et il développe une philosophie de l'histoire où il présente la naissance, la croissance, mais aussi la déliquescence du christianisme. Et il évoque en contrepartie, il dit que c'est un constat pour lui, la phase de développement de l'islam, non seulement dans notre pays, mais au-delà de notre pays. Et la cause de ce double mouvement repose, selon lui, au manque d'engagement, de dynamisme des peuples judéo-chrétiens pour lesquels le message de la foi n'est plus l'essentiel, mais plutôt quelque chose de culturel, alors qu'à l'inverse, l'islam reposerait sur un dynamisme de la foi et non pas sur un principe culturel. C'est une analyse. Son analyse est assez, négative et pessimiste quant à l'évolution de la foi chrétienne en Occident. Moi, je crois que la foi chrétienne est vivante, bien vivante, et que le Christ, tel qu'il est dit dans les Écritures, un jour verra toutes les nations à genoux devant lui. C'est pour moi et pour nous une certitude. Mais quand on regarde cet épisode, on est bien face à deux tribus, Ruben et Gad, qui ont de grands troupeaux, un grand cheptel. Et il est dit, le cheptel qu'ils possédaient était très nombreux. Le cheptel que possédait. Et j'aime bien, c'est Rashi qui dit ceci, on se pose la question effectivement de quel est l'essentiel pour Ruben et Gad. Ils virent que le pays de Yazer et de Galaad était propice à l'élevage. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 23, verset 20, il est écrit « Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. » Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. J'envoie un ange devant toi pour te protéger et te faire rentrer dans cette terre promise. Quand je lis ce passage du livre de l'Exode, je ne peux m'empêcher de voir dans ce texte une dimension messianique. J'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Christ est celui qui a été envoyé afin de nous conduire dans notre terre promise. Elle ne se situe pas dans un espace du Moyen-Orient, elle se trouve, cette terre promise, en nous. Cette terre que nous avons à conquérir, à faire grandir, sur laquelle nous avons à remporter des victoires. Écoute sa voix, ne lui résiste pas. Or, la particularité du comportement des deux tribus de Ruben et de Gad, c'est que contrairement au fait de regarder devant et de voir la terre promise qui se présente à eux, ils virent que le pays de Yazer et de Galaad était propice à l'élevage. C'est-à-dire qu'ils sont centrés sur leur bien, sur leur bien-être, sur leur possession. Toute la problématique dans le rapport de l'homme avec Dieu et aux promesses qui lui sont faites, est présente dans ces deux mots. Ils virent. Qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce que nous voyons? Comment nous voyons Dieu? Comment nous voyons Christ aujourd'hui dans notre vie? Comment nous voyons le monde? Comment nous voyons notre vie? Comment nous voyons les propositions que ce monde nous fait au regard des propositions qui nous sont faites en Christ. J'aime profondément l'introduction de l'Épître aux Éphésiens qui dit « En lui, en lui, en lui, en lui, voilà ce que vous avez. » Relisez, je vous y invite, l'introduction de l'Épître aux Éphésiens et alors se posera la question « Qu'est-ce que vous voyez entre ce qui vous est proposé par Christ en lui ?» et ce qui nous est proposé dans cette vie, dans ce monde, De la même manière que les 10 espions 40 ans auparavant avaient vu le pays, sa richesse, mais avaient vu également la taille de certains de ses habitants, les géants Anakim, eh bien ceux-ci avaient décidé de renoncer au pays promis. 40 ans de promenade dans le désert, à ne manger que la manne matin, midi et soir. Tout simplement parce qu'ils avaient vu et qu'ils avaient eu peur et qu'ils ont choisi. Marcher par ce que nous voyons, évaluer l'intérêt des promesses de Dieu à l'aune de ce que nous voyons, c'est très risqué. À moins de voir par la foi. Le prophète Habacuc, au chapitre 2, verset 3, dit « L'Éternel m'adressa la parole et il dit « Écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par la foi. » Vivre par ce que je vois ou vivre par la foi, c'est un choix qui m'est proposé. C'est ce à quoi je suis invité. La tribu de Ruben et la tribu de Gad virent que cette prairie, que ce pays était bon pour leur cheptel. Yézer, ça veut dire aider, utile. Ah, avoir quelque chose qui m'est utile pour vivre ma vie, qui peut m'aider. Galade, par contre, dit, la traduction, c'est dur, rugueux. Ouais, ça va pas être facile. Choisir ce que l'on voit, c'est parfois faire le choix de ce qui semble tellement utile pour ma vie, qui va tellement m'aider à développer ce que je suis, à développer mes biens, mes ressources pour ce temps, pour cette vie. Ah, c'est tentant de faire le choix de ce qui semblerait aidant pour aujourd'hui. Ce que je vois là m'aide. Dans nos choix, ce que nous avons à faire en cherchant la volonté de Dieu, la pensée de Dieu pour notre existence, nous sommes aussi très tentés de dire, eh bien, est-ce que cela ne serait pas plus simple de faire ce choix-là, en dehors du terrain de la promesse, sans rentrer dans la terre promise, parce que là, j'y trouverais quelque chose de confortable, d'aidant. Ne franchissons pas le Jourdain, je vous en prie. Restons en deçà. C'est tellement plus facile. C'est vrai que la vie avec Dieu, ça peut être quelque chose de risqué. Nous parlions avec quelques-uns dimanche dernier des missionnaires d'autrefois. Un livre m'avait particulièrement marqué dans ma jeunesse, c'est « Splendeur de Dieu », le témoignage d'Adoniram Judson qui est parti à la fin du 19e, je pense, être missionnaire en Chine dans des conditions très difficiles. Il y a perdu beaucoup, beaucoup. Mais il a été aussi un témoin de Christ au milieu des hommes. Il a franchi le Jourdain. Gad et Ruben disent, non, ici, c'est quand même plus aidant, plus facile. Et lorsque je vois cela, je ne peux pas m'empêcher de penser à Lot, qui a vu lui aussi les terres de Sodome et Gomorre tellement plus confortables, tellement plus agréables. Et nos choix, nous, aujourd'hui, ne sont pas d'une autre nature. Christ nous dit, voilà, est-ce que tu veux franchir le Jourdain? Est-ce que dans ta vie, tu veux aller au-delà et rentrer dans la terre promise que j'ai pour toi dans ton existence? Avoir une autre dimension de vie? Oh, il y aura des villes à faire tomber, il y aura des victoires à remporter. Mais, comme le disait tout à l'heure le texte de l'Exode, « J'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin » et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Moi, j'ai cette assurance-là, que Christ marche devant moi. Vous l'avez certainement, je l'espère, cette espérance que Christ marche devant vous. Alléluia. Au verset 3, pour justifier un petit peu ce choix, cette décision, les fils de Ruben et les fils de Gad viennent voir les autorités, Moïse, Éléazar et les princes de la communauté, c'est-à-dire les chefs des autres tribus. Et ils ont un discours, là aussi, assez particulier. Moi, j'aime beaucoup ce texte-là, parce que la manière dont les choses sont dites ont du sens. Quand il les dit au début du verset 1, « De grands troupeaux possédaient Gad et Ruben », qu'est-ce qui nous possède aujourd'hui ? Qu'est-ce qui fait que nous souhaiterions ne pas dépasser le Jourdain, aller au-delà de ce que Dieu nous propose là devant ? Eh bien, le verset 3 est assez intéressant parce que c'est un discours, je dirais, un peu surprenant. Ils viennent voir les autorités et là, au lieu de dire « voilà ce qu'on souhaiterait », ils disent « Ataroth, Dibon, Yazer, Nimra, Eshbon, Eleale, Sebam, Nebo et Béon ». C'est-à-dire qu'ils commencent par faire une litanie des villes qu'ils ont conquis précédemment et qui sont en deçà de la terre promise. Tout ce pays que le Seigneur a mis à mal devant la communauté d'Israël est un pays propice. Ah, c'est un mode d'argumentation dans ce texte-là qui est assez étonnant. Il commence par faire la liste des villes qu'ils ont combattues et qu'ils ont vaincues. Il cite les villes conquises et puis ensuite ils disent « voilà, c'est vraiment un terrain intéressant ». Et ensuite ils diront au verset 4 « tout ce pays que le Seigneur a mis en mal ». Et le verset 5 arrive la formulation de leur demande. « Si nous avons trouvé grâce à tes yeux, donne-nous ce pays comme propriété, ne nous fais pas passer le Jourdain ». C'est une phrase considérable en termes de sens et d'avenir. « Ne nous fais pas traverser le Jourdain ». Marcher par la vue ou par la foi. Vous vous rappelez cette phrase de Job qui disait « Maintenant, mon œil t'a vu. Maintenant, mon œil t'a vu. » Il n'a pas vu Dieu. Mais par la foi, il l'a aperçu, il l'a vu et il a compris où était son salut. Tout ce pays. Dans une des traductions de la Bible en français, la version hébraïque Korène, il y a une particularité dans sa présentation. C'est ce que je lisais il y a quelque temps. C'est qu'il y a un blanc entre le verset 4 et le verset 5. Il y a une sorte de blanc comme ça. Alors, on lit « Tout ce pays que le Seigneur a mis à mal devant la communauté d'Israël est un pays propice à l'élevage. Or, nous avons des troupeaux. » Puis il y a un blanc. Puis ensuite, il y a le verset 5. « Ils dirent, si nous avons trouvé grâce à tes yeux, donne-nous ce pays comme propriété. Ne nous fais pas passer le Jourdain. » Entre l'argument concernant l'intérêt du pays qui est convoité, le pays de Yaézer et le pays de Galaad, et le désir de ne pas aller au-delà du Jourdain, il y a comme un blanc qui veut dire que Moïse attend. C'est une manière de... J'écoutais un commentateur de ce passage qui disait « Moïse s'est tu, il attendait, tranquillement. » Dit bon. Alors eux, ils expliquent, voilà, c'est pas mal ce pays, il est quand même agréable. Alors, en fait, si nous avons trouvé grâce à tes yeux, donne-nous ce pays. Un silence où Moïse ne dit rien, il attend de voir quelle est la formulation et l'attente qu'il y a dans le cœur de ces deux tribus. Il est bon parfois de ne pas argumenter et entrer dans un débat avec celui ou celle qui cherche des raisons, de ne pas faire ou de ne pas entrer dans la volonté de Dieu. Vous savez, dans le témoignage et l'évangélisation, parfois, on passe tellement de temps à argumenter. On pense que évangéliser, c'est arriver à convaincre l'autre. Si l'autre a décidé de ne pas entrer, il n'entrera pas dans la terre promise. Par contre, il est bon de savoir quelle est la raison pour laquelle il y a une demande. Qu'est-ce que je veux pour ma vie? Qu'est-ce que j'attends pour ma vie? Là, ces deux tribus s'approchent et disent finalement, voilà ce qui est notre attente. Nous ne voulons pas entrer dans la terre promise. Donne-nous ce pays qui est avant la terre promise. Combien il est triste de voir qu'ayant la terre promise sous les yeux, alors qu'il n'y a qu'à traverser le Jourdain pour mettre le pied sur les promesses de Dieu, certains peuvent se dire « je reste en deçà ». C'est une grande tristesse, ne trouvez-vous pas? Alors Moïse, lorsque la question est enfin posée, en tout cas l'intérêt de Gad et de Ruben, eh bien, à partir du verset 7, et jusque dans la suite de ce chapitre 32, va se mettre en colère, ou en tout cas va s'énerver. Pourquoi voulez-vous décourager les Israélites de passer dans le pays que l'Éternel leur donne? Et il va les renvoyer, en fait, à l'histoire d'Israël, à savoir, rappelez-vous ce qui s'est passé il y a 40 ans. Rappelez-vous comment des hommes sont montés d'Égypte et puis sont allés quelque part pour rentrer dans les promesses de Dieu. Et il y a 40 ans, on refusait de le faire. Est-ce que vous allez, par votre comportement, être un témoignage de la même nature et contraindre le peuple à repartir dans l'errance, dans la dispersion, dans la perte de son héritage promis? Le chapitre 32 va donner ce discours de Moïse en disant « Car si vous vous détournez de lui, il continuera de laisser Israël au désert et vous causerez la perte de tout ce peuple. » C'est lourd comme conséquence. À cause de votre attitude. Voilà. Si vous agissez comme cela, vous allez avoir un contre-témoignage. Ce discours de Moïse n'est pas illogique. Et il nous renvoie à notre propre responsabilité en tant que croyants. Si nous ne franchissons pas le Jourdain dans notre vie, si l'Église ne rentre pas dans les dimensions qui sont celles que Dieu a prévues pour elle, eh bien, nous serons un témoignage qui entraîneront les hommes et les femmes à s'éloigner de Dieu et à ne pas rentrer dans la plénitude du salut et de la rédemption. Est-ce que c'est cela que nous voulons? Ce sont les conséquences qui peuvent arriver si nous sommes comme Ruben et Gad. Alors, au verset 16, Ruben et Gad vont négocier. Il y a une négociation qui se met en place. Ils s'approchèrent de Moïse et dirent « Nous construirons ici des parcs pour nos troupeaux et des villes pour nos petits-enfants. » Et puis ils diront à Moïse, et puis une fois que ça sera fait, eh bien nous nous armerons en hâte et nous nous équiperons pour marcher devant les Israélites jusqu'à ce que nous les ayons introduits dans le lieu qui leur est destiné. Ce qui est intéressant dans ce verset, c'est que Ruben et Gad parle des autres comme les Israélites. C'est-à-dire qu'ils se sont quasiment exclus. Dans tout ce texte-là, d'ailleurs, et on le verra dans un autre texte qui est celui de Josué, eh bien, il est parlé des fils d'Israël en opposition avec Ruben Gad, et puis une demi-tribu de Manassé. On ne sait pas comment elle s'est retrouvée dans cette galère, elle, qui a décidé de suivre les deux autres tribus. Mais en tout cas, il y a d'un côté, à partir du moment où Ruben et Gad décident de ne pas franchir le Jourdain, de ne pas rentrer dans la terre promise, il y aura désormais les fils d'Israël et eux. Ce qui va poser des problèmes par la suite. Alors, ils négocient. Ils négocient en disant, ben voilà, si nous ne rentrons pas dans la terre d'Israël, eh bien, on va construire des enclos pour nos troupeaux, et puis, on va faire aussi des villes et des écoles, et puis tout ce qu'il faut pour nos enfants. Il n'y a pas quelque chose qui vous choque là-dedans ? Il n'y a pas quelque chose qui vous choque ? Où sont les priorités ? Les priorités, c'est, nous construirons ici des parcs pour nos troupeaux. Vous vous rappelez le verset 1 du chapitre 32 ? Des troupeaux possédaient Ruben et Gad. On se disait qui possède quoi ? Eh bien, on s'aperçoit que ce sont les troupeaux qui sont la priorité de Ruben et Gad. Ce sont les biens matériels, c'est l'économie des deux tribus. C'est pour ça que nous ne voulons pas rentrer dans la terre promise. Il vaut mieux qu'on reste sur ce qui nous intéresse, ce qui est essentiel pour nous. Toujours Rashi, qui est un rabbin qui a fait un commentaire assez extraordinaire du Pentateuque, il dit « L'essentiel est devenu secondaire et le secondaire est devenu essentiel. » À savoir que les troupeaux précèdent l'intérêt des enfants, de la descendance, de la famille. Le bien est avant l'essentiel. Or, quand Moïse va, je dirais, argumenter avec eux, eh bien, lui va remettre au verset 24, « Construisez des villes pour vos enfants et des enclos pour votre petit bétail. » C'est-à-dire que Moïse, lui, va remettre les choses dans le bon sens. Vous êtes à côté de la plaque. Vos priorités ne sont pas celles de Dieu. Alors, vous voulez agir comme ça, d'accord. Mais regardez ce que vos priorités font de l'ordre qui est dans votre vie. L'essentiel est devenu secondaire, vos enfants, et le secondaire, vos biens, vos troupeaux, etc., est devenu essentiel. Moïse reprend leur comportement. Et d'ailleurs, au verset 13, il les renvoie aussi, et voici, vous prenez la place de vos pères comme des rejetons d'hommes pécheurs. Il les renvoie au comportement de leur père en disant, ben voilà, vous êtes en train de faire comme vos pères. Vous passez à côté de la grâce, de la vie, des promesses de Dieu. Une répétition des comportements générationnels. Je dis souvent que j'ai été marqué par le manque dans ma jeunesse et que ce manque que j'ai vécu dans mon enfance, aujourd'hui encore, a des traces dans ma vie. Toujours peur de manquer. Quand je me fais à manger, je me fais toujours à manger et après je me dis, j'en ai quand même fait un peu trop, mais je fais toujours un peu trop. Mais il y a un signe qui est assez étrange, j'arrive jamais à boire un verre jusqu'au fond. Quand j'en ai bu la moitié, je rajoute une moitié. Toujours. J'arrive pas à m'en empêcher. À la fin du repas, je finis la moitié qui reste. Mais tout au long du repas, je remplis mon verre d'eau, d'une moitié d'eau, etc. Le lien du passé. Ce que nous ont transmis nos pères, de bon ou de mauvais. Voilà ce qui induit le comportement de Gad et de Ruben. Alors, quelles sont les conséquences possibles ? Bah, vous risquez, par votre comportement, en ne voulant pas aller jusqu'au bout, bah, de transmettre cela aux autres et de les décourager. Ah ! Ces chrétiens qui pensent, par exemple, vivre en dehors de l'Église, en se disant bah, « l'Église, ça n'a pas beaucoup d'utilité, c'est secondaire, etc. » Ça ne fait pas partie de l'ordre de Dieu, de la pensée de Dieu. Bah, on transmet à ces enfants, aux autres générations, l'inutilité de l'Église. Pourquoi franchir le Jourdain ? Pourquoi aller dans les promesses de Dieu ? Nous transmettons Et qu'est-ce que nous transmettons? Ce que nos yeux voient? Ce qui nous semble être bon pour nous? Ou est-ce que nous transmettons ce que les yeux de notre foi peuvent transmettre à l'autre? Ah! Quelles sont les conséquences? Dans le psaume 55, il dit « Ensemble, nous connaissions la douceur des secrets partagés. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. » J'aime cette formulation. Je ne sais plus quelle traduction c'est, mais en tout cas, « Ensemble, nous connaissions la douceur des secrets partagés. » Dans les promesses de Dieu pour nous, il y a une douceur de secrets partagés. Et nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Est-ce que nous pouvons rentrer dans cette dimension de foi? Eux, Ruben et Gad, disent, on est devant la terre promise, d'accord, mais ne nous fais pas traverser. Ce sont eux qui demandent à ne pas aller plus loin. Le Jourdain représente une nouvelle étape. Il y a l'avant, il y a l'après, un peu comme le baptême. Le baptême, c'est ce passage du Jourdain. Entre la vie avant et la vie après, j'ai décidé de m'engager avec ce Dieu qui m'a rencontré et que j'ai rencontré. Dieu nous donne le choix, à chaque nouvelle étape de notre vie spirituelle, de nous arrêter ou d'aller de l'avant. Alors, il n'y a pas que un Jourdain dans notre vie, il y en a plusieurs. À chaque fois où Dieu nous dit, est-ce que tu es prêt à faire ce pas de foi avec moi, à aller de l'avant? Et je dis, ben non Seigneur, je vais rester là parce que c'est plus confortable, parce qu'il y a moins de risques. Si je franchis le Jourdain, va falloir se battre un peu au niveau de la foi, va falloir se coltiner l'adversaire, j'ai pas forcément envie. Ou j'ai tout ce que j'ai vécu jusqu'à présent, m'incite à aller de l'avant avec toi Seigneur, tes promesses sont certaines, tu nous as fait sortir d'Égypte, alors pourquoi ne franchirais-je pas ce Jourdain pour entrer encore plus pleinement dans tes promesses et dans ta vie? Et là, c'est les yeux de la foi. Qu'est-ce que je souhaite pour moi? Ne pas aller plus loin. Ça ne remet pas en cause notre salut. Hein. On peut très bien rester devant le Jourdain, en deçà de la terre promise, et être toujours avec Dieu. Ça va être plus compliqué, on va le voir après. Dieu ne nous fera pas traverser de force pour aller plus loin sans notre consentement. À cause de priorités mal placées, ils s'approchèrent de Moïse et ils refusèrent d'entrer dans la terre promise. Alors, Moïse et les deux tribus vont conclure un arrangement. Alors ce qui est très étrange, c'est que cet arrangement est devenu dans le Talmud, qui est le commentaire du Pentateuque, est devenu le cadre et le modèle concernant les conditions pour lorsqu'on souhaite acquérir quelque chose sous condition. C'est ce texte-là qui est devenu la référence en disant, ben voilà, si vous voulez acquérir quelque chose et qu'il y a des conditions, et ici c'était les conditions, d'accord, vous voulez acquérir ce pays, ok, mais la condition c'est que vous allez aller de l'avant, vous allez avec les autres tribus, les 9 autres tribus, pour combattre, etc. Et ce texte est devenu dans le Talmud le texte de référence pour quand je veux acquérir quelque chose et que je pose des conditions. Il y a dans ce texte tous les principes pour construire une démarche d'acquisition d'un bien sous condition. Moi, je trouve ça amusant que dans le judaïsme, on ait utilisé cette attitude de Ruben et de Gad comme un texte presque de loi. Et puis, si nous voulons comprendre ce texte-là, il nous faut aller dans le livre de Josué. À la fin de cet épisode de conquête, dans le chapitre 22, verset 1, Josué appela les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé. Je vous dis, celle-là, on ne sait pas d'où elle sort. Et pourquoi tout à coup, à la fin de la conquête, ils disent, ah ben nous, on va aller avec les autres, en dehors. Après quelques années de bagarre et de conquête. Comme quoi, même après bien des années de marche avec le Seigneur, de victoire avec Dieu, nous pouvons revenir en arrière et laisser les promesses de Dieu qui étaient non plus devant nos yeux, mais sous nos pieds. Moi, je crois qu'il y a... j'ai aimé la prière ou la confession de foi de Michel. Hein, cette confession, je crois en Dieu. Et dans la confession de foi, on parlait dans l'Église apostolique aussi la possibilité de déchoir de la grâce. abandonner la grâce dont nous étions bénéficiaires. On peut retourner en arrière. Quand on était au collège biblique, nous étions tout un groupe de jeunes gens se formant, se consacrant à Dieu. Et avec Michel, quelques nombreuses années, 15, 20 ans après, avec Francine, Catherine, on a fait la liste de ceux qui ont disparu des radars. Radars du service, de la consécration, voire même de la vie avec Dieu. Des hommes ou des femmes qui pourtant, quand nous étions ensemble, étaient presque des modèles. Des hommes et des femmes qu'on mettait là, on disait « Ah, oh, lui, celui, ça fera un pasteur ou un serviteur de Dieu, cette sœur-là, elle est extraordinaire. » Et 10, 15 ans, 20 ans plus tard, ils sont comme menacés, ils disent « On va retourner en arrière. » On laisse la terre conquise et on retourne en dehors de cette terre promise. Alors là, cette demi-tribu menacée avec les Rubénites et les Galadites, Josué, une fois que le pays est conquis, c'est le chapitre 22 de Josué, « Vous avez observé tout ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel, et vous avez obéi à ma voix dans tout ce que je vous ai ordonné. Vous n'avez pas abandonné vos frères depuis un long espace de temps jusqu'à ce jour, et vous avez gardé les ordres, les commandements de l'Éternel, votre Dieu. Maintenant que l'Éternel, votre Dieu, a accordé du repos à vos frères, comme il leur avait dit, retournez et allez vers vos tentes dans le pays qui vous appartient et que Moïse, serviteur de l'Éternel, vous a donné de l'autre côté du Jourdain. » Quand ils furent arrivés au district du Jourdain qui appartient au pays de Canaan, les fils de Ruben, les fils de Gad et la tribu de Manassé y bâtirent un autel sur le Jourdain, un autel dont la grandeur frappait les regards. Et c'est là que commencent les problèmes à nouveau. Qu'est-ce qui se passe? En fait, on pourrait dire qu'on va rentrer dans un épisode d'un autel de trop. Autel, c'est A-U-T-E-L. Hein, ce n'est pas un autel pour les voyageurs. En fait, à la fin de la conquête, ces deux tribus, plus celle de Manassé, arrivent, ça y est, c'est terminé, le pays est conquis. Vous savez combien ça a pris d'années? À votre idée? 2, 3, 4? Combien? Ah ben non, pas 40 ans quand même. Non, vous n'avez pas d'idée? 14 ans. 14 ans, à partir du moment où les deux tribus ont dit « Nous, on y va », et même on marchera devant, on sera éclair, c'est dire leur bonne volonté. Tout ça pour avoir leur terre à eux, telle qu'ils la voyaient, pleine de profits. Ils étaient prêts à marcher devant, c'est-à-dire à être en première ligne. Et pendant 14 ans, ils ont combattu avec les fils d'Israël, parce que c'est comme cela que c'est précisé, ces deux tribus ennemies. On n'en parle plus comme des tribus faisant partie des tribus d'Israël, ce sont les autres qui sont les tribus d'Israël. Et pendant 14 ans, ils vont combattre. Vous savez ce qui se passe pendant ce temps-là, du côté de Yaézer et de Galaad? Pendant ce temps-là, les maisons construites, les parcs et les troupeaux qui ont été gardés, ils ont grandi, ils sont développés, et notamment les enfants. Pendant 14 ans, tous ces enfants qui étaient là, en deçà, n'avait pas toute la culture, le message de ces promesses de Dieu pour eux. C'est-à-dire qu'ils étaient un petit peu à l'écart. Ils n'avaient plus l'identité du peuple de Dieu comme l'avaient ceux qui étaient dans la terre promise. Pendant 14 ans, tous les jeunes garçons, pendant 14 ans, ont passé leur bar mitzvah, mais en dehors de toute cette culture qui imprégnait Israël, cette relation à Dieu, et surtout du lieu de culte qui était central et qui à l'époque se trouvait à Shiloh. Ils étaient en dehors. Alors au bout de 14 ans de bons et loyaux services, ils sont retournés dans leur région avec la bénédiction de Josué. Mais le fait d'être en dehors, tout à coup, en arrivant dans leur pays, est devenu une évidence, mais il nous faut un autel. Il nous faut quelque chose qui puisse permettre non seulement à nos enfants de comprendre quelle est la signification et la place de Dieu, mais aussi aux autres de se rappeler que nous sommes une part d'Israël, en dehors de la terre, mais nous sommes. Ah, ça c'est du bricolage. Non ? C'est du bricolage. La terre d'Israël, elle était circonscrite. Le pays de la promesse, il est là, dans ces lignes-là de territoire. Mais nous, on a fait le choix d'être en dehors. Alors, même si on est en dehors, on va bricoler un truc. On va se construire un hôtel. À tel point qu'il est tellement important, il frappait le regard. C'est-à-dire que pour eux, ce n'était pas tellement la vue ou le sens de cet hôtel qui était important. C'était l'importance pour dire, voilà, on est vraiment des Juifs. On me dit, c'est plus le sens profond qui imprégnait leur être d'appartenance au peuple d'Israël. Ce qu'ils voulaient, c'est une image, une représentation. Être en dehors des promesses de Dieu, de sa terre promise, c'est un risque. Et on peut construire tous les plus grands hôtels pour se dire qu'on est croyant, chrétien, appartenant à la famille de Dieu. Mais si on n'est pas dans les promesses de Dieu, si on n'est pas dans la terre du Seigneur, dans notre propre vie, si on ne laisse pas notre vie être imprégnée de cette foi et de cette relation, on peut mettre les plus grands panneaux. Ici vit un chrétien. Ça ne sert pas à grand-chose. Ça ne sert pas à grand-chose. S'il n'y a pas en moi profondément cette identité qui est inscrite. J'ai envie de dire qu'il y a un hôtel de trop, parce que l'hôtel réel est à Shiloh, avec l'Arche de l'Alliance, avant que tout se déplace sur Jérusalem. Mais c'est là. Et d'ailleurs, le peuple juif, et dans ce texte, on parle toujours des Bnei Israël, des fils d'Israël, en opposition avec ces deux tribus. C'est-à-dire qu'elles se sont bien exclues d'elles-mêmes du peuple de Dieu, en opposition avec les fils d'Israël. Et les fils d'Israël vont se centrer sur Shiloh, là où se trouve l'expression de la foi et de la religion juive. Alors, bien sûr, quand ils vont arriver, ils vont se mettre en face des deux tribus en disant « Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous faites ?» etc. Et les deux tribus vont dire « Ah, mais nous ne voulons pas faire des sacrifices. Cet hôtel-là n'est pas un hôtel prévu pour faire les sacrifices, c'est juste un hôtel pour que nos enfants se rappellent qu'ils sont de cette identité-là et que vous, vous ne puissiez pas dire « Mais écoutez, vous n'êtes pas partie intégrante de notre peuple, c'est juste quelque chose pour rappeler. » Ah ouais, un hôtel où on ne fait pas des sacrifices. Un chrétien ou un croyant qui serait croyant sans que la croix soit présente dans sa vie. Sans hôtel, sans sacrifice, difficile. On veut être juif, mais il n'y a plus de sacrifice, il n'y a plus d'hôtel, il n'y a plus... Non, juste une image, une étiquette. Il est parlé ici, quel est le centre de notre foi. Pour les juifs, il ne pouvait pas y avoir de relation avec Dieu sans qu'il y ait un hôtel et qu'il y ait des sacrifices. Pour Ruben et Gad, il pouvait y avoir un hôtel sans qu'il y ait de sacrifice. À quoi servait-il? Sinon pour dire, on a encore cette étiquette de juif. Si Christ n'est pas dans ma vie, avec son sacrifice, avec la croix plantée, ma foi reposant sur cette assurance, il est mon sauveur, son sang a coulé, alors s'il n'y a pas ça, ça ne me sert à rien de me dire chrétien. Si je ne franchis pas le Jourdain, et si je ne suis pas attaché à ce sang qui coule, et qui me donne le pardon des péchés. Ce qui va se passer, c'est que le peuple d'Israël va considérer que si cet autel est juste un autel pour faire bien, eh bien restez-y, restez dans votre coin. Mais ce n'est pas un autel en concurrence avec celui qui a du sens, là où les sacrifices se font. Ce qui est en jeu, et c'est aussi Rashi qui le rappelle, c'est quel est l'essentiel et quel est le secondaire dans notre foi. Qu'est-ce qui est au centre de ma vie aujourd'hui? Un hôtel vide de sens ou un hôtel où le sang coule et où le pardon des péchés est accordé? Une identité de chrétien qui n'est qu'une étiquette ou une identité de chrétien où je suis rentré, je rentre dans la terre promise, je franchis le Jourdain, et je crois que la croix a été plantée à Golgotha et que le sacrifice a été fait pour moi aujourd'hui. Dans le texte de Josué au chapitre 22, d'ailleurs, il y a une particularité lexicale, c'est que les Juifs d'Israël disent l'autel. Ils ne disent pas un autel. Ils ont construit l'autel, sous-entendu comme si c'était un vrai autel de sacrifice. Et les autres diront non, non, ce n'est pas l'autel, c'est un autel, un simili, une ressemblance. Soyons centrés aujourd'hui, frères et sœurs, sur quel est l'autel qui est dans notre vie, à savoir Christ, la croix plantée à Golgotha. Est-ce que nous souhaitons franchir le Jourdain dans notre vie pour entrer dans les promesses de Dieu et ne pas rester en deçà de ce qu'il souhaite pour nos vies? C'est là l'enjeu. Que choisissons-nous, l'essentiel ou le secondaire? Seigneur, merci pour ta parole qui nous éclaire, y compris lorsque nous lisons le cheminement de ton peuple en Israël et qui nous parle de nous aujourd'hui. Il n'y a pas un peuple qui fait des mauvais choix et nous qui serions dans une bonne attitude. Il y a des hommes et des femmes qui sont appelés par toi à entrer dans une vie, et une vie de plénitude et de grâce. Et ce qu'ont fait ton peuple dans les temps passés, nous le reproduisons nous aussi. En lisant ta parole, par ton esprit, parle-nous afin que nous fassions les bons choix. Que là aussi nous ne soyons pas dans le secondaire, dans tout ce que nous vivons, mais dans le désir de vivre l'essentiel. Cette relation avec toi, ces promesses qui se trouvent en toi. En toi, Seigneur, je sais que j'ai la vie éternelle. En toi, Seigneur, je sais que sont toutes les promesses du Père pour ma vie. Maintenant, en toi, Seigneur. Alors donne-moi le courage de franchir mes Jourdains au fur et à mesure et d'entrer dans ces promesses de Dieu pour ma vie. Amen.